Bonjour à tous et bienvenue au Corporate Chat Podcast de McGill. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Loïc Meunier et moi-même, Mathieu Grandchamp, vous proposons encore une fois un podcast bilingue qui reflète la culture bilingue du milieu des affaires de Montréal. Aussi, nous tenons à remercier Olivier d'avoir accepté de joindre à nous pour le podcast. Sur ce, bon épisode.
Salut Olivier, comment ça va?
Ça va super bien, merci de me recevoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, si on peut directement commencer le podcast, peux-tu nous parler un peu de ton parcours, tes origines, de quel endroit viens-tu, ta formation académique, etc.
Oui, certainement. Je suis grandi au Québec, sur la Rive-Sud de Montréal. J'ai trombé mon intérêt pour la finance assez jeune, quand j'étais adolescent, commencé à lire des livres. Sur la finance, j'avais lu la biographie de Warren Buffett, ça m'avait vraiment interpellé, puis j'avais commencé à suivre les marchés boursiers, commencé à acheter des stocks quand j'étais à la fin de mon secondaire, puis au cégep. J'ai fait mon bac en finance, économie-finance à McGill, puis j'ai fait une couple de stages, j'étais ici à l'époque à la Banque nationale, puis chez Power Corporation. Après mon bac, j'ai eu la chance de bouger à New York et commencer ma carrière chez Goldman Sachs en investment banking, couvrant des institutions financières, fintech, fait vraiment très deep dans les marchés financiers. À l'époque, je pensais que ça allait être ma dream job, puis c'était vraiment excitant. Ça a été super excitant, c'était une super belle école de formation, mais j'imagine que vous avez une idée, c'est quoi investment banking, c'est quand même des très longues heures chez Goldman, c'est très intense. Après un certain temps, je trouvais que le rapport, le trade-off de ce que j'apprenais, puis ma qualité de vie commençait à être difficile, puis j'avais d'autres trucs qui m'intéressaient d'apprendre. Je voulais faire le switch côté investissement, ce qui m'a attiré en finance dans un premier lieu. Donc, j'ai transféré en venture capital. J'ai déménagé à San Francisco, fait late stage venture capital, fait série B, qui sont des startups en pleine croissance jusqu'à pre-IPO, fait des grosses compagnies comme Uber, etc. J'étais au SoftBank Vision Fund, qui était à l'époque le plus gros fonds qui avait été levé dans le monde de VC. C'était dans les premières années du fonds, fait que c'était assez excitant et intéressant de voir. Et le type de compagnie avec laquelle on travaillait, c'était principalement toutes les grosses startups en technologie, mais aussi d'être là alors que le fonds se bâtissait, de voir tous les bons coups et les erreurs aussi, de comment ils s'étaient up les équipes, comment ils distribuaient les responsabilités, etc. Mais ça a été une super belle expérience. J'ai été là pendant presque 3 ans, 2 ans et demi. Je devrais mentionner, en fait, au travers de ce chemin-là, chez Goldman et SoftBank, j'avais une période de garden leave qui appelle, dans le fond, où je ne pouvais pas travailler pendant 2 mois, depuis que j'ai passé à Nairobi, au Kenya. Ma copine, Anne-Sophie, qu'on s'est rencontrée ici à Montréal, qui était avec moi aux États-Unis, était allée au Kenya travailler pour une non-profit. Elle avait pris une pause de travail en consultation pour aller travailler avec une non-profit, puis j'étais allé la rejoindre sur le terrain. Puis, passer du temps sur le terrain, naturellement, je pendant l'an Venture Capital, j'étais super intéressé par travailler avec des startups. Fait que j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs sur le terrain pour réaliser, sans grande surprise, mais l'accès au capital est très, très difficile dans les pays en voie de développement, puis en Afrique de l'Est, même s'il y a un gros hub d'écosystème de startups au Kenya. Okay. Donc, quand on est revenu, Anne-Sophie, moi, Anthony et Declan, deux de nos cofondateurs qu'on avait rencontrés sur le terrain, on a cofondé un organisme à but non lucratif qui s'appelle Mkono, qui fait du microfinancement pour les entrepreneurs. Fait qu'on, dans le fond, notre grosse thèse, c'est on recyclait le capital, on pouvait faire des prêts aux entrepreneurs sans leur charger d'intérêt. Eux, ça leur donnait accès à du financement pour un fonds de roulement, dans le fond, pour leur inventaire, de la petite machinerie, etc. Ils nous repayaient, ça leur apprenait un peu comment les marchés des capitaux fonctionnaient, puis nous, ça nous permettait de réutiliser les prêts pour d'autres entrepreneurs. Fait qu'au lieu d'être 1 $ qu'on levait, qu'on donnait à un entrepreneur, chaque dollar qu'on fait peut impacter jusqu'à 10 entrepreneurs. Puis Mkono, en fait, je suis toujours impliqué sur le board, continue à grandir. On a supporté plus que 100 entrepreneurs à ce statut. Fait que ça a été une très cool expérience en parallèle. Première expérience d'entrepreneuriat pour moi, du côté non-profit. Puis, bref, donc après SoftBank, décidé de retourner sur les bancs d'école, j'ai fait mon MBA à Stanford. Super, super expérience. J'imagine qu'on va pouvoir en parler plus en détail, mais... vraiment tout un écosystème d'entrepreneuriat, puis Stanford, c'est une école incroyable. Puis, pendant que j'étais à Stanford, j'ai cofondé une fintech, une startup en technologie qui s'appelle Tetrix. Je suis le CEO puis cofondateur. J'ai rencontré mon cofondateur sur les bancs d'école à Stanford. Puis, on a commencé à travailler sur la startup il y a 2 ans pendant qu'on était à Stanford. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on l'a bâti. On est rendu une équipe de presque 10. On est headquarter à New York. Puis je parle en Tetrix plus en détail, mais c'est une startup dans les marchés privés alternatifs pour aider les gestionnaires de portefeuille, les allocateurs de capital à gérer toutes les données, leur portefeuille et leurs risques dans les marchés privés alternatifs.
Super. En effet, on va retoucher de
ça. Ouais, je lui donne un overview rapide.
Si on vient un peu dans le temps, tu as mentionné justement ton expérience chez SoftBank.
Ouais.
Tu as vu les plus grosses entreprises technologiques justement à leur étape autant jeune, donc tu as sûrement appris des grosses leçons. Puis je me demandais, quelles sont ces leçons-là, puis comment ça guide justement tes actions avec ta propre compagnie maintenant, avec FX?
Ah, ça, on pourrait passer une heure sur cette question-là, mais pour toucher sur une couple d'éléments, l'importance de product market fit, puis de comprendre que, en bout de ligne, une startup, tu bâtis un produit, mais tu veux répondre à un besoin du marché, puis ça doit venir du marché, en bout de ligne, comment la solution est développée. Clairement, les compagnies qui avaient la plus forte croissance, c'est avoir choisi ce bon marché-là. La qualité d'une équipe, la trajectoire d'une startup était très, très influencée par la qualité de l'équipe de gestion qu'ils mettaient en place. Puis ce qui est intéressant à voir, c'est la bonne équipe de leadership quand la compagnie est 20-30 personnes est différente de la bonne équipe de leadership quand la compagnie est 250 personnes, puis est différente de la compagnie quand la compagnie a 1 000-1 500 employés. Dans le cas d'une startup, ce qui est intéressant, c'est que ces trois événements-là peuvent arriver en dedans de 3 ou 4 ans. Donc, comment est-ce que tu penses à cette croissance-là et faire évoluer la compagnie? L'importance de la culture aussi, quand une compagnie double année après année, comment est-ce que tu maintiens ton noyau fort et une culture d'entreprise? Plusieurs éléments intéressants à voir, de voir les bons coups, les mauvais coups, comment les gens approchent différemment le financement. Différentes startups ont différentes approches. Est-ce qu'on lève beaucoup? Est-ce qu'on lève moins et on est plus conservateur? C'est super intéressant d'apprendre des différentes leçons.
Mm-hmm. Puis on entend souvent justement que l'entrepreneur qui crée la compagnie n'est pas nécessairement la personne qui a le meilleur fit pour aller jusqu'au statut unicorn, comme on dit.
C'est intéressant sur ce point-là, par contre, parce que quand j'étais chez SoftBank, je me suis souvent posé cette question-là de dire l'entrepreneur qui est arrivé avec l'idée, qui était visionnaire, est potentiellement pas le bon gestionnaire à gérer une compagnie de 500 personnes. Mm-hmm. Mais je regardais beaucoup les données de ce côté-là, puis je parlais à des investisseurs institutionnels récemment. Puis en fait, les compagnies qui ont été cofondées, puis le CEO qui a cofondé la compagnie et le même CEO qui gère la compagnie de façon publique, surperforment les marchés par 20-25%. Okay. Ce qui est vraiment fascinant de voir quand...
Ouais. OK, super. Écoute, moi, je veux revenir au fait de ton MBA. Tu as eu des jobs à Goldman, à SoftBank, tu en as parlé, tu as eu une expérience au Kenya. Qu'est-ce qui a fait que tu es retourné à l'école puis tu t'es dit, écoute, on change complètement l'environnement, on retourne à l'école, puis pourquoi tu as fait le choix à Stanford?
Oui. Une couple de facteurs d'un point de vue professionnel. Je me disais, je vais travailler les probablement 40, 50, 60 prochaines années de ma vie. 2 ans, le trade-off à long terme de 2 ans d'aller de moins de travail versus 2 ans d'aller vivre une expérience incroyable dans une des meilleures écoles au monde. Je trouvais que c'était un trade-off intéressant. J'étais super intéressé par l'entrepreneuriat. Stanford est réputé et reconnu pour son environnement entrepreneurial. Je pense que 40% des unicorns aux États-Unis ont un cofondateur qui est allé à Stanford. Je voulais rencontrer aussi un cofondateur. J'étais bien conscient. Je savais que je voulais partir quelque chose, une startup dans les marchés financiers. J'avais plein de thèses, mais je voulais m'embarquer dans cette aventure-là avec quelqu'un d'autre qui aurait des skills complémentaires. Mon cofondateur est incroyable aussi dans des marchés financiers, mais d'un point de vue technologique, puis AI, puis notre Chief Technology Officer. Fait que je ne vais pas prévoir que j'allais le rencontrer à Stanford, mais je me doutais qu'en mettant dans un environnement comme ça, il allait avoir des bonnes chances que je puisse explorer d'un point de vue entrepreneurial. Je veux dire, en bout de ligne, si je regarde dans Insight, puis c'était probablement le best case scenario de ce qui est arrivé à Stanford, mais j'ai rencontré mon cofondateur à Stanford. Tous nos investisseurs sont reliés à Stanford. J'ai eu plusieurs clients qui ont été introduits par l'entreprise de mon network de Stanford. Donc, le ROI était clairement là. Fait que ça, c'est d'un point de vue professionnel. J'ai toujours adoré l'environnement aussi d'école. Fait qu'on dirait que pouvoir aller vivre cette expansion dans une grosse université américaine est intéressant. Puis d'un point de vue personnel, ma femme maintenant, Anne-Sophie, a été acceptée aussi en même temps. Les deux ont été acceptés en même temps à Stanford, ce qui est assez rare qu'ils ont des, il y avait ça, des dual admit, mais de pouvoir vivre cette expérience-là, les deux ensemble, c'était vraiment toute une expérience de pouvoir voyager, rencontrer plein de gens, faire des super bons amis.
Ouais. Puis, ayant été à McGill puis à Stanford, qu'est-ce que tu dirais que tu as remarqué des choses qui contrastent vraiment de différents ou des similarités entre les deux?
Oui, c'est une excellente question. De un, c'est vraiment impressionnant puis encourageant de voir à quel point McGill a une belle réputation à l'international. La plupart, quand tu es aux États-Unis, ont une super bonne image de McGill. La plupart des gens connaissent, ce qui est assez rare de connaître des universités pour des Américains qui sont non-américains. Un des gros avantages de McGill, je veux dire, le coût d'éducation, je trouve ça aberrant aux États-Unis que ça coûte autant d'argent puis que les gens doivent s'endetter 200 000 $ pour aller chercher un bac ou une maîtrise. Fait que, d'un point de vue McGill, je trouve le rapport, la qualité de l'éducation que tu as versus ce qu'on a à débourser comme Québécois-Canadien, et on est vraiment chanceux. D'un autre côté, naturellement, Stanford a énormément de ressources, pas juste à cause des frais de scolarité qu'ils chargent, mais à cause de leur énorme fonds de dotation, leur Endowment Fund, les alumni, etc. Fait que, en termes d'installation, là, je pense encore que le campus de Stanford, c'est un des plus beaux endroits physiques aux États-Unis. Là, c'est magique comme endroit. Je pense que c'est 30 km carrés, je veux dire. Tu as un terrain de golf, c'est des édifices magnifiques. Tu es en pleine nature, en plein milieu de Silicon Valley. Puis, en termes de qualité de professeurs et speakers, il y a des super bons professeurs à McGill, mais je pense que les stats, quand j'étais à Stanford, il y avait 20 prix Nobel qui enseignaient à Stanford pendant que j'étais là. Mon professeur d'économie était un advisor pour la Fed à New York. J'ai eu Eric Schmidt comme professeur, l'ancien CEO de Google. On l'a eu comme speaker, Evan Spiegel, le cofondateur de Snapchat, le cofondateur de Intuit, le cofondateur de Lyft. Je veux dire, les speakers, Barack Obama est venu sur le campus pendant que j'étais là. Il y a quand même un certain niveau de starstruck. Puis c'est pas tout, mais c'est clair que quand tu es capable d'être exposé et d'apprendre de ces gens-là, puis surtout dans une dynamique, c'est clair qu'il y a une différence entre un bac et une maîtrise, mais quand tu retournes pour l'MBA, je veux dire, tout le monde a fin vingtaine jusqu'à mi-trentaine, a une carrière. D'un point de vue professionnel, tes dynamiques avec les professeurs et les étudiants, c'est plus de pair à pair. Okay. Fait que c'est difficile à comparer, là, parce que je n'ai pas fait de maîtrise ici à McGill, mais...
Puis écoute, tu as touché le point de vue monétaire là, de Stanford. Ouais. On rentre un peu dans le côté personnel, sans toi à l'aise de disclose ce que tu veux, mais comment tu as fait le choix, étant donné que tu as fait le choix d'aller à Stanford, comment est-ce que tu as payé pour l'école?
Ouais. J'avais été chanceux d'avoir travaillé en finance 5 ans avant à Goldman et Sarfin, puis d'avoir réussi à économiser. Fait que j'étais dans une position où j'étais capable de financer la maîtrise à cause de ça. Mais ouais, c'est un choix difficile. Je veux dire, il y a beaucoup de mes collègues de classe qui, je veux dire, prenaient des gros prêts étudiants pour être là à Stanford. Puis je pense que ça justifie là, la valeur d'éducation à long terme.
Et est-ce que tu l'aurais fait si tu avais eu à prendre un prêt de 200 000?
C'est une très bonne question. Je vais dire oui, mais c'est difficile. C'est difficile à complètement imaginer. La réalité, Stanford est très bien pour ça. Il t'admet à l'université sans savoir ta situation financière. Puis si tu n'es pas dans une position de pouvoir payer, peuvent subventionner jusqu'à comme 95% de ton MBA. Fait que c'est difficile d'imaginer tous les scénarios financiers, mais ça, c'est en fonction de tes salaires précédents, etc. En bout de ligne, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus où la différence de salaire à long terme pour n'importe quel niveau d'éducation est assez marquée pour chaque palier d'éducation. Puis quand tu compares cette rentabilité-là à long terme de l'éducation versus le coût, dans presque tous les scénarios, ça vaut la peine d'aller à l'école, puis clairement à l'université, puis dans certains cas la maîtrise. Mais je trouve que c'est aberrant qu'il y ait des barrières comme ça qui font en sorte que les gens doivent se poser la question « est-ce que je peux me permettre? »
Puis, pendant ta description, tu as mentionné brièvement que tu as rencontré Warren Buffett. Est-ce qu'on peut avoir peut-être l'histoire de
ça? Ouais, avant de la rencontre avec Warren Buffett, ce qui m'avait exposé à la finance, c'était de lire la biographie de Warren Buffett à 13 ans. Fait que ça a toujours été un peu iconique pour moi, puis je pense beaucoup de jeunes en finance. Je suis pas unique, mais c'est lui qui m'avait exposé, dans le fond, où j'ai décidé de faire ma carrière, puis je suis super passionné par ce que je fais. Quand j'étais à McGill ici, en fait, Carl Moore, qui, je pense, enseigne toujours à des hôtels, avait réussi à... Warren Buffett fait ça, je pense, 5 ou 6 fois par année, où il va rencontrer avec quelques groupes de 20 étudiants. Il les reçoit à Omaha, au Nebraska, et lunch avec eux, répond à leurs questions, etc. Puis ça a donné que la deuxième année où j'étais à McGill, je pense, McGill, qui avait été en ligne d'attente pendant plusieurs années, était rendu au moment où on avait été invité pour aller avec lui. Donc, ça a été vraiment, vraiment cool. On a été un groupe de 20 étudiants ici de McGill. On était partis, je pense, 3 jours à Omaha. On avait lunché avec Warren Buffett, posé plein de questions. Fascinant de voir à quel point il est allumé à 91, 92 ans. Il rentre, je veux dire, c'est un des hommes les plus riches sur la planète. Il rentre dans son steakhouse favori. Il n'y a pas de garde du corps. Il n'y a rien. Il se promène comme si, je veux dire... Il rentre, il est super allumé pour son âge, répond les questions. Il était super drôle, il était un peu dur d'oreille, fait qu'il se rapprochait des fois des tables, il courait un peu au travers d'une pièce à l'autre. Il invitait tout le monde pour le lunch. Puis après les 2 jours qui ont suivi, il y a beaucoup de ces compagnies de Berkshire Hathaway qui sont, ben pas beaucoup, mais quelques-unes de ces compagnies qui sont locales, qui sont basées là-bas. Donc on avait visité des sièges sociaux et différentes compagnies de manufacturing, de jouets, de jewelry. C'était vraiment cool de voir ça.
C'est pas mal. Ah, une belle anecdote.
Ouais.
Bon, maintenant, on aimerait ça parler un peu de ta startup. Tu l'as mentionné un peu tantôt. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans le processus?
On est en pleine croissance en ce moment. On a levé 2 rondes de financement, 5 millions US. Au total, les 2 ont été leadés principalement. Le fonds de VC qui nous a backé s'appelle Innovation Endeavor, qui a été cofondé par Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, que je mentionnais tout à l'heure, qu'on a eu comme prof à Stanford. Puis 2 des autres partners sont très chez Innovation Endeavor. Harpy et Scott sont très impliqués, c'est des lecturers à Stanford. Fait qu'on était bien dans l'écosystème de Stanford, puis dans le fond, on avait investi dans nous initialement, alors qu'on était littéralement juste 2 gars avec une idée et un papier. Puis récemment, en début d'été, on a levé une 2e ronde de financement que aussi eux ont l'idée. On a un consortium de prolifiques anges qui viennent du milieu d'investissement de chez CPPIB, BlackRock, Lending Club, Plaid, etc. Fait que des startups et grosses institutions financières. Fait qu'on a un super beau groupe d'investisseurs. Ça c'est d'un point de vue investissement. D'un point de vue produit, on a passé la majorité de notre temps à Stanford, puis même les 6 mois qui ont suivi Stanford en 2023, à faire beaucoup de recherches de marché. On a parlé à plus de 200 investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des family office, des fonds de dotation universitaire, etc., qui sont dans le fond la clientèle cible qu'on vise, pour comprendre quels étaient leurs gros besoins. Et ça a informé la plateforme qu'on a bâtie. La plateforme est dans le marché depuis le début de l'année. Puis là, on est en plein processus de scaler en termes de onboarder des clients. Je fais beaucoup de temps avec l'équipe de produits à continuer de développer le produit, puis aussi beaucoup de temps sur la vente avec des clients potentiels. Puis, si je peux résumer, en fait, j'ai fait toute cette explication-là sans résumer un peu c'est quoi le produit, mais c'est une plateforme, dans le fond, de gestion de portefeuille de risque pour les marchés privés alternatifs qu'on vend à des LP, des Limited Partners, qui investissent dans des fonds d'investissement. Donc, en gros, pensez à fonds de dotation, de pension de McGill, caisse de dépôt, des fund of funds, des family office. Eux, la façon dont ils investissent, c'est principalement en investissant dans des fonds, comme des Innovia, des Novacap, etc. Ce qu'ils reçoivent comme reporting, c'est principalement des documents PDF dans des data room portals, des données semi-structurées. C'est très difficile pour eux, d'un point de vue opérationnel, de prendre tous ces documents-là, toutes ces données non structurées-là, les structurer-là, pour après avoir l'ensemble de leur vue de leur portefeuille, pas juste les fonds dans lesquels ils ont investi, mais les quelles compagnies sous-jacentes que ces fonds-là sont investis, pour savoir, tu sais, j'investis en santé, en PE au Canada, c'est quoi les retours de ce portefeuille-là? C'est très difficile à savoir, à moins que tu es capable de tout amalgamer ces données-là qu'ils reçoivent des fonds. Donc, notre solution aide à toute cette ingestion de données-là, on utilise beaucoup de AI, machine learning, qui je pense clairement des nouvelles technologies qui sont apparues dans les 2 dernières années qui nous permettent d'incorporer ces données-là. Puis après, on a beaucoup d'analytiques qui permettent à ces gestionnaires de portefeuille-là, ces gros fonds d'investissement, de prendre leurs décisions.
OK, puis dans le fond, comment est-ce que votre compagnie, elle, fait de l'argent par rapport aux clients? Est-ce que c'est un peu comme un, tu sais, chez Terminal, Bloomberg, je pense que tu achètes le terminal, puis bon, après ça, tu as les ressources. Comment est-ce que ça marche? C'est-tu un subscription?
C'est une subscription, fait que similaire, modèle similaire à Bloomberg, c'est une bonne analogie. Là, on aime se comparer parce que Bloomberg a bâti une super bonne entreprise de données qui est principalement focalisée sur tout ce qui est les marchés publics. Énormément, la quantité de capitaux dans les marchés privés alternatifs a quadruplé dans les 10 dernières années. Il y a beaucoup d'alpha qui est généré dans les marchés privés alternatifs. Quand je dis marché privé alternatif, c'est venture capital, private equity, mais aussi crédit privé, immobilier, ouais, infrastructure, hedge fund, fund of fund, puis même des fonds de crypto. Je veux dire, il y a quand même un gros amalgame. Et on charge dans le fond une subscription, un licensing qui est variable selon la quantité de fonds que le client a. Naturellement, il y a une différence entre un petit fonds de dotation universitaire qui a, disons, 30 fonds, puis un gros fonds de pension qui a 1500 fonds.
OK. Puis, si je ne me trompe pas, votre siège social est à New York. Oui. OK. Donc, on a entendu un peu, de, selon ton expérience, c'est l'influence, de, ben, l'impact que Stanford a eu sur non seulement toi, ton partenaire, mais aussi sur les investisseurs que vous avez attirés, etc. Pourquoi vous avez décidé de vous baser à New York puis pas en Californie?
Ouais, c'est une bonne question. Ben, de un, pour nous, il y a beaucoup plus d'institutions financières à New York qu'à San Francisco. Il y en a à San Francisco, mais en termes de la base de nos clients, beaucoup plus concentrés sur la côte Est. Puis en bout de ligne, je pense, ce qui fait le succès d'une startup à long terme, c'est être proche de ses clients, comprendre leurs besoins. Il y a beaucoup d'entreprises en fintech basées à New York, fait qu'il y a quand même un bon écosystème de startup principalement en fintech. Donc, quand tu regardes le marché aux États-Unis, dans le monde, c'est clairement San Francisco où il y a la plus grosse densité de startups, mais New York est en deuxième, donc je veux dire, c'est quand même un assez gros marché. Ouais. Puis, une raison, je veux dire, personnelle, on trouvait qu'on fallait trouver du bon talent à New York. New York est beaucoup plus proche de Montréal, ça faisait du sens, c'est pour mon cofondateur et moi. Puis, on savait qu'on aurait toujours ce lien-là avec San Francisco à cause que la firme de VC qui était établie là-bas, je suis probablement à San Francisco une fois, une semaine et demie à tous les trimestres. Donc, je passe quand même certaines parties de mon temps à San Francisco avec des clients puis avec nos investisseurs.
OK. Puis, aussi, tu es passé, tu as fait tes 2 ans à Goldman, ensuite tu as été à Citibank. Puis ensuite, ton MBA, comment est-ce que tu as transitionné vers ton rôle de leadership, justement, parce que c'est dans des rôles quand même assez juniors, de mentionner justement dans tes leçons à SoftBank, que justement c'était la culture d'équipe, mais maintenant c'est toi qui sets la culture, donc comment tu as assumé ce changement-là?
Toujours en processus d'apprentissage de ce côté-là, c'est clair que Stanford a beaucoup aidé en termes de la formation, puis ce à quoi tu es exposé, puis poussé, il y a beaucoup de classes sur le leadership, comment établir une structure organisationnelle, comment établir une structure de vente, etc. C'est un des éléments que je préfère de mon rôle actuel, c'est que je suis toujours dans cette zone d'apprentissage-là à me stretcher, puis la différence, la réalité, c'est que CEO jour 1, quand c'était mon cofondateur et moi, je veux dire, on est juste deux à travailler sur un projet. C'est différent de CEO en ce moment quand j'ai une dizaine d'employés qui se rapportent sous moi. Puis si la compagnie continue de grandir, ça va être différent qu'on va être 50, 100 employés. Pour l'instant, on est quand même assez flat comme structure organisationnelle où, je veux dire, on n'a pas de double layer. Fait que tout le monde se rapporte soit à moi ou à mon cofondateur. C'est une équipe, un rêve. On travaille tous ensemble de façon très conjointe puis c'est vraiment pas hiérarchique. Mais c'est intéressant pour moi de développer dans ce rôle.
Si je peux parler un petit peu encore du cheminement, là, entre le poste d'un banquier d'investissement, puis comme on en a parlé, c'est assez réputé pour être quand même avoir une rémunération assez importante. Ouais. Explique-moi un peu le cheminement que tu as eu par rapport à avoir un poste comme ça, puis devenir un entrepreneur. Puis on s'entend, quand tu es entrepreneur, tu ne fais pas nécessairement 5 millions la première
année. Clairement pas.
Peux-tu me parler un peu de ça?
Oui. C'est clair qu'à court terme, d'un point de vue salaire, je veux dire, n'importe quel emploi, clairement un entrepreneur versus être un investisseur en finance gagne moins d'argent, mais d'un, je pense pas que l'argent, c'est ce qui me motive le plus. Puis je pense aussi qu'il y a une différence en penser à court terme versus à long terme. Si Tetrix continue d'être un succès et grossit, je pense pas que je vais être à plaindre d'un point de vue financier. Puis la réalité, c'est que c'est ce qui m'excitait. Je veux dire, j'étais motivé par l'idée d'être un entrepreneur, d'être dans cette position de leadership-là à l'âge que j'ai aussi, puis d'être capable d'être dans cette zone d'apprentissage. C'est assez rare, je vais avoir 30 ans dans quelques mois, mais je gère une grosse équipe. Si tu ne peux pas vraiment avoir des trajectoires comme ça sans être entrepreneur. Puis, d'un point de vue passion par rapport au projet que j'ai, par rapport aux besoins qu'on allait répondre dans le marché, je sentais vraiment qu'il y avait un besoin dans le marché, puis j'étais assez uniquement positionné pour répondre à ce besoin-là. Fait que c'est un peu une opportunité de se dire c'est le bon moment pour faire le saut. Puis la réalité, c'est qu'une carrière est longue. Je pense que notre génération, je nous inclus tous dans la même génération, on le prouve. Je veux dire, les gens changent beaucoup d'emploi. Puis je pense que certains voient ça comme une mauvaise chose. Je pense que c'est une super bonne chose où ça nous permet d'apporter différentes perspectives à chacun de nos emplois. Ça nous permet de faire de nous des meilleurs professionnels overall. Puis je pense que ça rend ça plus motivant pour nous aussi d'imaginer sa carrière pas comme un travail que je vais garder pendant 25 ans, mais différents éléments que je vais bâtir puis différentes perspectives. Puis la réalité, c'est que je vois en étant en tant qu'entrepreneur en ce moment, si je retournais en investissement puis je faisais du capital de risque ou en venture capital, je serais un bien meilleur investisseur en comprenant ce que ça a été de bâtir une entreprise.
Que ça implique
des entreprises. Je réalise que quand j'étais de l'autre côté puis je conseillais des founders puis des entreprises, je comprenais rien. Je veux dire, c'est drôle de retourner puis je me disais, ah ouais, j'avais clairement beaucoup d'apprentissage à faire, puis beaucoup de complexité à bâtir et à rouler une business. Fait que de cette perspective-là, même si Tetrix fonctionnait pas, puis tout s'enligne que ça fonctionne très bien pour le moment, mais même si ça fonctionnait pas, je ferais rien d'autre en ce moment. Puis pour moi, c'est un bon signe que j'aime beaucoup ce que je fais.
Parfait. Mais je pense que ça mène parfaitement à la prochaine question. Je me demandais justement, tu as réussi à attirer des investisseurs. Je dirais, autre que le flux de capital que ça a amené, qu'est-ce que tu dirais que c'est l'apport de ces gens-là à ton entreprise?
Je pense que ça peut varier drastiquement d'un point de vue de la qualité des investisseurs. Je pense que ça a vraiment choyé de Innovation Endeavor de nos lead investors et des anges aussi qu'on a autour de la table peut apporter beaucoup en termes d'introduction à des clients potentiels. Je veux dire, le marché en finance, c'est quand même un petit marché. Il y a beaucoup de bouche à oreille pour des solutions, etc. Donc, qui sont super utiles d'un point de vue introduction à des clients potentiels. Super utiles aussi. Ils sont la bonne balance de nous conseiller, mais jamais nous être prescriptif ou nous dire quoi faire, mais être là à nous écouter, à comprendre les difficultés qu'on a, puis amener la perspective. Bon, on a vu ces deux, trois trucs-là marcher avec d'autres compagnies. Ils ont quand même un sample size un peu plus gros, naturellement, ils travaillent avec plusieurs startups, donc ça rend ça intéressant pour nous d'avoir ces perspectives-là. Ils sont super utiles quand vient le temps d'engager pour nous aider vers la fin des entrevues à interviewer des candidats. Surtout, c'est des rôles qu'on n'a jamais fait, d'essayer de nous aider à bien niveler. Est-ce que c'est le bon candidat pour le bon rôle, pour le bon stage à startup? Combien on devrait payer ce candidat-là? Je suis juste avant de venir ici, j'étais en négociation avec une offre qu'on vient de faire avec un candidat potentiel. Puis il y a tellement d'éléments à penser quand tu engages sur comment tu structures l'offre, etc. Mm-hmm. C'est des super bons partenaires pour réfléchir à toutes ces questions-là.
Puis tu dirais que c'est quoi, par exemple, tes plus grosses restrictions au niveau quand tu structures la paie, parce que tu peux aligner les incentives, mais tu veux peut-être pas trop diluer ton liquidité. C'est quoi les moving parts là-dedans?
Ouais. Les deux grosses moving parts d'un point de vue incitatif financier, c'est ton salaire de base, puis l'équité dans la compagnie. Mm-hmm. Où je me situe en ce moment, pour moi, je trouve que c'est super important que les employés aient l'incitatif que Tetrix réussissent et que si Tetrix réussit, ces employés-là en bénéficient. Puis je pense que c'est exactement le bon incitatif à long terme. Aussi très conscient qu'ils ont des besoins pour vivre, puis New York, c'est pas une ville qui est très... c'est une ville qui coûte assez cher à vivre. Donc, je veux dire, il y a un équilibre entre les deux, puis c'est intéressant. En fait, souvent, on vérifie avec nos candidats qu'est-ce qui t'intéresse le plus entre l'équité et le salaire de base, puis c'est intéressant de voir les motivations de l'employé. Puis en fait, récemment, on a fait une offre qui finalement, ça n'a pas fonctionné au point de vue salaire. Puis on a décidé de ne pas bouger parce que la personne voulait plus de salaire cash, moins d'équité. Puis pour nous, c'était un signal, là, probablement que cette personne-là n'est pas là pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Mais la réalité aussi, ce qui est super intéressant de voir, c'est l'incitatif financier, c'est seulement un des incitatifs pour encourager les gens à venir. Puis beaucoup d'employés qui viennent travailler pour nous, on le voit avec les mois qui passent, c'est, je pense, la culture puis le sentiment que tu contribues. Toi, personnellement, tu as un impact majeur sur la compagnie puis l'environnement dans lequel tu es. Puis c'est drôle, comme les statistiques financières, naturellement, tu y penses initialement, mais rapidement, c'est clairement pas ça à quoi ils pensent au jour le jour. Puis je pense qu'il y a tellement d'autres façons de créer un environnement pour motiver les gens à travailler.
Mm-hmm.
Great, so let's switch to the market segment.
Yes.
You mentioned your typical clients being institutional pension plans or family offices, and without discussing or disclosing any client, could you share an example of a real-life story you successfully acquired at this, and an example?
Yeah, of course. I guess just as a quick recap, the type of clients we target are primarily institutional clients or family offices. So institutional clients can take the form of pension funds, sovereign wealth funds, large fund of funds, endowment, university endowment funds or foundations, and then on the single family office, single and multifamily office. Basically anyone that has large pocket of capital that they're allocating to private and alternative market. One that comes to mind, I mean, there's multiple stories, but one that is like probably stereotypical in terms of like how long it takes and the number of relationships you need to have. Recently signed a large endowment funds in the US for one of the big US university, where we had first spoken to them probably in late Q1, early Q2 of this year. The way I do my sales cycle is the initial conversation is I try to understand what are their needs. So more of that, we call it need discovery. On purpose, I try not to show the solution and I try to understand what they're trying to solve. So that's what happened with them. If there's a good alignment and I feel like our solution is well positioned to address what they're seeking for, the typical follow-up is a 45-minute product walkthrough where we walk through the product life, show them the capabilities of the product, how AI can help ingest the documents, the set of portfolio monitoring and risk. At that point, that specific endowment, and typically for clients, like they were excited, promising technology, it's an early stage startup, so it can be early, but they want to like engage, it just may be a bit too early. So through the summer, a few touch points on giving them updates as the startup is progressing, and then led to, okay, we think you guys are making good progress, let's have another 1 hour call. This time we're gonna have 12 people on our side. It's gonna be like a more in-depth diligence of the product. Want to question, understand how it works. We're gonna have a mix of investment team people, operations folks, tech people. I love those calls, but it can be quite intimidating, obviously, of like me presenting and you have like 12 people and they're trying to basically probe and understand. And then in that case, I think they were convinced by what they were seeing, but that's what I realized about enterprise sales. Deal doesn't finish there. There's a lot of steps after that of they want to look at your cybersecurity to make sure that it's like proper and that you have a good handle of their data, which obviously we spend a lot of time on. I want to start with their legal team to ensure that the contract and the provision and how you handle data works. And then they probably want to test or pilot the solution. So they run, like we have different ways of doing pilots and tests, but they ran tests with some of their funds to see, okay, it works with our data, not just like the data that you were showing through the demo. And then eventually led to signing the deal and an implementation process with them right now.
Great. And earlier you mentioned how some of your investors are helping you put you in connections with potential clients. Would you say that's the main way of connecting with potential clients? And if not, how do you go about getting your foot in the door?
Any way possible. Definitely, I mean, their innovation endeavor is awesome and they're definitely a good generation of lead, but it's only a handful. I think the majority of the work falls on us. So when you start from scratch, it's a lot of cold emails and outreach. Fortunately, I was coming from the world where I have a bunch of peers or folks that I know at different funds. So it helps at least getting those initial meetings. So there's a lot of that cold outreach or warm intro. Interestingly, and we started seeing that probably this summer, you presented to, I don't know, a specific family office, and they find it really interesting. And often how they make decision is they want to get kind of the thoughts of some of their peers. So they're going to introduce me to two other CIOs of some of their peers. So obviously that helps in the funnel. So we've had a lot of referrals like this from existing clients, but even from non-clients that are just in the process of like exploring the solution. Then we also came out of stealth. So I don't know if you guys are familiar with the concept of stealth, but for the benefit of maybe some who might not be. For the first year of the company, we were building in stealth, which basically means we had like no public visibility. And the advantage of doing that is you can build without your competitors knowing that you're building the solution. you can build and be able to quickly iterate and modify the solution without feeling like you're committed publicly to a solution. So I think it's a really great environment for an entrepreneur to be able to be in that environment. And especially for us, because we're a B2B product, we could still go out and sell the product even if we were in stealth. It's difficult to do when you're a consumer company and trying to get like viral traction. Mm-hmm. So we came out of that stealth mode end of the summer. And it was really interesting to see, we had a bunch of news coverage. I think we probably had like 15, 20 publications pick up the news in the US. And the weeks that followed, I had the key action item on the website is book a product demo, which part of it is linked to my calendar. So a lot of product demos end up on my calendar so I can meet with prospective client. And the weeks that followed, the first like 2.5 weeks that followed, I think I was having like 12, 14 meetings per day. My calendar was just like back to back of product demos. Wow. Really exhausting. But it was really interesting to see the like receptivity and the interest that people had in what we were building.
Great. And I have to ask you, what's next for a company? Maybe expanding to new markets. You mentioned you're focusing right now on New York, some of Montreal's.
Yeah.
What's next?
Everything at the same time. So I think the key, I spend a good chunk of my time with existing clients in the process of onboarding to make sure that our solution can deliver with prospective clients so that we can keep adding to the funnel. So just managing that sales funnel is a good chunk of my time, and spend a lot of time with the product, and tech team to continue improving the product. We have a really good solid version of the product that is delivering value for our customers, but we have so many ideas, us internally, and that we're receiving from our customers on how we can build and make the product even better. And at the end of the day, that's how our company is going to be successful. So that product roadmap exercise is really interesting, of figuring out the prioritization of what we build first. Like, what are we building by December? What are we building in January and February? Like, we're not talking even long term. We're talking like, how can we ship and deliver quickly? So that's what's next. We just hired 2 new engineers. So growing the team quite quickly as well as we're onboarding clients. I think that's probably the roadmap for the next, year and a half on that, building and continuing to onboard clients. And then after that, we'll see. There's kind of 2 paths from a fundraising standpoint. One path is self-sustaining growth. So as you grow and generate cash from the business, you can continue trending up. Mm-hmm. And there's a path where you go out and raise another round of financing, which has the advantage of being able to accelerate your growth. Obviously you give up more of the business, and there's higher pressure in terms of the growth rate that your business has to achieve. But that's kind of the roadmap for now. It's tough to think about a 5 to 10 year horizon. Obviously, like, a 10 year horizon is building a Bloomberg equivalent to private and alternative market and bringing your company public. Obviously I have an attachment to Montreal, so would love to build a chunk of the team here as well, not just in the US. That's the long-term horizon, but I would say 99% of my brain power is spent on the month-to-month and quarterly planning.
And how would you say you go about determining you need a new employee specifically now? And do you have an idea of what kind of profile you want for that employee? You just go out with your company, your job posting, and then you see who fits best the job?
Yeah, that's a good question. We like to be in the stretch zone and feel the pain before going out and hiring for a role. So you feel you need for a role when it's like, clearly if that person started tomorrow, like, I could give them all that thing and like their plate would be full. It's very like role driven in terms of, so we know what we're seeking for. A few months ago, we wanted a product designer. Like, none of us had like the product design eye, and we hired woman called Erin. She's fantastic. We had a need for like a customer support and helping handle like our entire operations team. We hired Ali a couple months ago, like, very specific role that we knew what we were seeking for. The 2 roles that we just hired were 2 engineering roles. Engineering and discovering that world and spending a lot of time with our engineering team is very complex, and there are obviously different profiles in terms of back end, front end, and AI specialists and infrastructure specialists. So you kind of know where the gaps in your team and where you want to add new skill set. My framework on it in terms of who we hire, someone had positioned it to me, and I think it's a really good framework. The first 20 employees in a startup, you should be, after you've hired them and looking back, the feeling you should have is, I wouldn't be able to run the company without that person. Like, that person should be such a game changer in terms of what they bring to the table mm-hmm. that you can't imagine the company without them. So that sets the bar really high, obviously, in terms of who we hire. It's interesting, the spectrum can be, I mean, we have on the more junior side, folks that are a couple of years out of undergrad, and on the more senior side, in the process of hiring for a role for someone who has 25 years of experience. So it's a wide spectrum. And it's just finding folks that have the right set of motivation, that are passionate about what you're doing, and you feel like can bring something to the table.
And on the topic of sort of your sense of leadership, how would you say you approach your, because I've heard a lot about like founder mode versus like manager mode.
Yeah.
Is that how you sort of structure your role as a leader, or how do you go about approaching that?
I don't know how to best answer that question. I definitely see myself very hands-on right now, and I think that's like the founder hat of like, I want to be in every part of the business. Like, I'm part of like the engineering sprints, and I'm not an engineer, but I understand how the code works and like to be part of the loop and like to brainstorm with the engineering team. Mm-hmm. Very deep in the product side, very deep on the sales side. And I think my vision for now is like, anything I ask anyone to do in the company, I should be able to do myself, and I should be like very aware of what it is. Mm-hmm. And so that's probably like the founder mode of being quite hands-on in every aspect of the business. The manager mode is, for me, like I have so many hours in a week and I can't do everything. And it's important to like train and grow people as well. So being there to support and help, like basically, some tasks that I'm handling right now, I realize is not scalable. So I need to have someone in that is going to be able to handle it at scale and help train those people to do it. So it's a really interesting world to be in. I'm in that process of learning of how to manage that.
And on the same topic, do you have any tips or strategy? Because you obviously talk to a lot of executives, and do you have any tips or strategy for students when presenting a project or product? Or just an idea to top executives?
Yeah. The very simple, but well, a couple things. One that makes a really big difference is coming with a clear agenda. Like, seizing control of the meeting initially. If you get to a meeting and someone else is in charge and that person clearly outlines, this is what we're going to do in this meeting. Like, I'm going to bring you from A to Z. You're going to be able to chime in for this and this, and you feel that person is in control. You feel very at peace, at ease, and you probably open up and share a lot more information. And so when you present, giving that idea of a structure, like, we're going to start with introduction. I want to learn more about your business. I'm going to introduce you what Tetrix is. And depending how the call goes, here are the next steps that we could have coming out of the meeting. Like, doing that within the first minute puts people really comfortable. And then feeling like someone is in control of that ball. The worst thing that can happen in a meeting is not understanding where that meeting is going and who's in charge of that meeting. So that's one. Two, I think there's a saying that says, like, what people remember is how you made them feel, not what you said. And I think it holds true in any meeting. Like, at the end of the day, it's not like the precise points that you discussed in the meeting, but like how you came across, the energy that you brought. And I think that is really important. And then the third part is speaking the least amount possible. So you can hear from, especially, I guess, in like a sales meeting or a presentation, like hear from the other side and understand what they're trying to solve or what they're looking for. Like, understanding someone's needs, and I'm loosely defining it here because it obviously depends on the context of the meeting, is really important. And people do like to talk. So it's nice to try to put that thought out. So I would say that's how, in terms of structuring the meetings.
And what advice would you give to someone who's just getting started with their own startup?
You gotta surround yourself with the right support ecosystem, whether it's other founders. Like, from an emotional roller coaster, running a company is really hard because everything that is easy is handled by someone else, and you only end up with the things that are going wrong or like the tough decisions. And in the case of a startup, that's accentuated by the fact that you're starting, everything is trying to kill you. Like, when you start from scratch, you have no customer, you have no funding, you have barely an idea, you have no employees. it's really tough to get that traction and motion. It feels like you're pushing a rock uphill, and as soon as you let yourself down, like the rock is going to fall on you and you're going to tumble down. So I think having that support of whether it's like family, friends, mentors, investors, other founders that have gone through it, and you can have like joint therapy session, like super helpful. Focusing on not on what you want to build, but what the market wants. I think that would probably be my biggest misconception when I started, like you, and when I started at Stanford, because Stanford was really good at teaching us and training us from that entrepreneurship mindset. But I think the image that you have of any successful business or entrepreneur is they were sitting under a tree and an apple fell on their head and they had this brilliant idea and then they executed on it and look at that fabulous Airbnb business. And I think entrepreneurs that are successful are pretty bad at not telling their story with hindsight of we had everything figured out from the get-go. The reality is they had nothing figured out. And it's only when you look back that things make sense, like the storytelling after. But any business, I mean, Airbnb, Uber, Slack, we're all started with a different business model, all a different need, and they pivoted and iterated to what they are today. And the only way of being open to that is not being stubborn with your idea and understanding, listening to what your customers want. And you also obviously need to keep that flexibility to be able as an enterprise to react to that change and take advantage of those opportunities.
Great. And on a scale of 1 to 10, how would you say your GPA is important as a student?
I was asking my little sister who's an undergrad right now at HSC last night. I'm going to say 8. Do you want to
reason
it? Yeah. It's tough because the reality is like in the long term, it doesn't matter. Like fast forward 5 years, like your GPA is not. But as a student, it's one of the only signal that you have that either talks about like how hardworking you are or how like intellectually you're able to like grasp things quickly. And it's definitely an imperfect metric, but an employer that reviews roles quickly, that's the only measure that they can like universally benchmark people. So that's why I put it on the higher side than it being an accurate metric of intelligence or hard work. Like, I don't think it is, but it's an imperfect metric, but I guess that's the only one they have to judge college students.
And what is one book you would recommend to our listeners?
Non-business book. One of my favorite books is Pillars of the Earth by Ken Follett. I love history, and it's, I think, one of the best book ever written. He's an historian, and it's a like really amazing book. On the business side, I think The Power of Habit is a really powerful book on learning how to do long-lasting habits.
I think that sums it up.
Yeah.
So thank you very much.
No, thank you guys. It was a real pleasure to join you for the conversation.
Thank you for listening. If you've enjoyed listening, don't hesitate to follow us on our platform. Thank you, and have a nice rest of your day.
The sole purpose of this podcast is to educate and to inform our listeners. It is by no means a substitute for professional guidance by qualified experts. This podcast is provided on the understanding that it does not constitute financial or other professional advice or services. Instead, we encourage you to discuss your career options, as well as financial undertakings with other professionals who specialize in wealth, securities, and asset management, or any other field in financial services. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at a personal and individual risk. This podcast should not be considered professional advice. Guests who speak on this podcast express their own opinions, experiences, and conclusions. The views expressed on this platform are personal opinions and only, and should not be construed as financial advice for a given situation or from a given institution. While all attempts are made to present accurate information, it may not be appropriate for specific circumstances, and information may become outdated over time. No firm, nor any company providing financial support endorses or opposes any particular view or tools discussed in this podcast. This podcast is available for private, non-commercial use only. Advertising, which is incorporated into, placed in association with, or targeted towards the content of this podcast is forbidden. This podcast may not be edited, modified, or redistributed. The Corporate Chat podcast has no liability for any personal activities in connection with this podcast or for personal use of this podcast in connection with personal websites, computers, or playing devices. Moreover, the Corporate Chat podcast makes no warranty that this podcast or the server that makes it available is free of viruses, worms, or other elements or codes that manifest contaminating or destructive properties. McGill University and our sponsors expressly disclaim any and all liability or responsibility for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or other damages arising out of any individual's use of, reference to, reliance on, or inability to use this podcast or the information presented in this podcast.